Afrique.
I have a dream.
It's one small step for man.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Bonsoir à tous, Morgane Guiriec en votre compagnie. Bienvenue dans l'Amérique et vous. Au sommaire, les fusillades aux États-Unis. Le pays est une fois de plus endeuillé. 17 personnes ont été tuées mercredi dans un lycée de Portland en Floride. C'est la énième tragédie du genre puisque les États-Unis comptent déjà 30 fusillades de masse depuis le début de l'année 2018, d'après la Gun Violence Archive. Alors comment expliquer la récurrence de ces crimes, nous en discutons dans ce numéro de l'Amérique et vous. Pour participer en direct, appelez le 001 202 205 26 33. Pour les auditeurs qui ont laissé leur numéro sur la page Facebook de VOA Afrique, nous commençons dès maintenant à vous appeler. Les fusillades aux États-Unis, donc, pour en débattre ce soir. Notre invité, c'est Emilio Viano. Vous êtes professeur en sciences politiques à l'American University, ici à Washington, D.C. Merci d'être des nôtres ce soir.
Merci de m'inviter, c'est un plaisir.
Alors, 30 fusillades de masse depuis le début de l'année, cela fait 58 personnes mortes en 7 semaines. Emilio Viano, comment expliquer la récurrence de ces crimes ?
C'est naturellement très très difficile et naturellement très triste qu'il se passe ça dans le pays. Même le drame survenu mercredi n'est que le dernier d'une longue série de fusillades qui ont ensanglé l'Amérique ces dernières années. Et ce qui est préoccupant est que les tueries sont particulièrement récurrentes dans les écoles américaines. On dit qu'il y en a déjà eu 18 cette année passée, en comptant celle du lycée de Parkland en Floride. Mais à chaque fois, malheureusement, le débat sur les armes à feu, particulièrement dans les congrès, tourne court.
Donc pour vous, finalement, ce qui explique la récurrence, c'est le problème des armes à feu et de leur encadrement.
Oui, c'est ça. On dit naturellement aussi qu'il y a une grande polarisation dans le pays comme conséquence de la campagne présidentielle de l'année dernière et d'une ligne plus profonde entre les Américains qui sont contraires à l'administration courante du président Trump et à ceux qui l'appuient complètement. Et même on dit que ces déclarations avec ces tweets contribuent beaucoup à cette guerre, si on peut dire comme ça, entre certains segments de la population américaine et d'autres. C'est-à-dire un climat de diffidence, même de rejet, d'une haine entre les Américaines qui naturellement peut porter à la violence verbale ou même physique ou avec des armes qui sont très répandues aux États-Unis, malheureusement.
Alors, je vous propose qu'on fasse intervenir un de nos auditeurs. Au téléphone, nous avons Moustapha Bayor. Il est à Lomé, au Togo. Bonsoir, Moustapha.
Bonsoir, madame.
Alors, est-ce que vous avez une question ?
Ah oui, j'ai une question.
Allez-y.
Ok, s'il vous plaît. Moi, je suis de savoir, est-ce que, comme ça, le président des États-Unis ne peut pas amener une loi au Sénat pour qu'on vote pour limiter la vente des armes, disons, pour qu'on limite un âge dont, comme si vous n'avez pas tel l'âge, là, vous n'allez pas payer l'arme l'arme.
Alors vous demandez en fait pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une loi qui encadre l'accès aux armes, c'est ça Moustapha ?
Oui c'est ça, mais une loi qui définitivement, disons, qui interdit la vente des armes aux civils.
aux civils. Alors, c'est une question très profonde, hein, Emilio Viano, peut-être un élément de réponse?
Bien. Premièrement, les États-Unis sont vraiment un pays fédéral. Et comme c'est un pays fédéral, chaque État a la responsabilité des lois dans tous les domaines de la vie. D'un côté à l'autre d'un État, on peut avoir une loi très différente sur toutes les questions de la propriété, au mariage, à tenir des armes à feu, à la construction d'une maison. Et c'est ça, si on peut le dire comme ça, un aspect très intéressant des États-Unis, très positif, parce qu'il est supposé de refléter les valeurs d'un certain groupe de gens qui peut être différent d'un autre. Un État rural dans le centre du pays, comme Nebraska, Missouri, Kansas, peut être très différent dans la mentalité qu'un État urbain comme New York. Et c'est bien que les gens de Missouri peuvent vivre comme ils veulent sans adopter nécessairement les valeurs des gens de New York. Mais enfin, naturellement, ça présente des difficultés aussi, parce que d'un État à l'autre, il y a des règles différentes, même dans l'achat et le port d'armes. Et ça permet naturellement des États où on peut acheter des armes très facilement, par exemple dans l'État d'Alaska, où on peut faire ça très très facilement, sans aucun besoin même de s'identifier. Et quand dans certains États comme la Californie, il y a peut-être les contrôles les plus sévères dans l'achat des armes à feu. Et ça présente naturellement des grands problèmes. Il y a aussi une mentalité favorable aux armes à feu qui provient de l'histoire des États-Unis, un pays qui a été, on peut dire, conquis par les immigrants européens avec des conflits avec les populations indigènes et aussi quand il y avait bien des conflits entre eux. Et alors les armes à feu étaient très importantes parce qu'il n'y avait pas la présence de l'État, de la police, le numéro téléphonique pour appeler les secours, même quelquefois on devait chasser ce qu'on pouvait manger. C'est-à-dire qu'il y a toute une culture, particulièrement dans les États plus ruraux, d'avoir des armes à feu, même comme un symbole de masculinité, de prouver par soi-même d'être un homme particulièrement. Et il y avait une justification quand il y avait la chasse nécessaire pour se soutenir. Aujourd'hui, naturellement,
le contexte a changé.
Pas si nécessaire. Il a changé aussi assez, mais culturellement, il continue. Et il y a une association qui s'appelle The National Rifle Association qui est très, très puissante. Il a beaucoup d'argent, il contribue beaucoup aux campagnes électorales de nos sénateurs et députés et présidents et vraiment a le pouvoir de veto dans les lois au niveau fédéral contre le port facile, l'achat facile des armes à feu. Par exemple, le président Trump a reçu, on dit, plus de 20 milliards de dollars de cette organisation, pardon, 20 millions de dollars de cette organisation. D'autres sénateurs puissants comme John McCain, plus de 7 millions, Marco Rubio de la Floride, plus de 3 millions, etc. etc.
Et donc pour vous, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, la classe politique, notamment du côté républicain, tend à être favorable au port d'armes et refuse d'agir pour un encadrement plus sérieux?
Oui, c'est ça. C'est ça vraiment qu'ils ont une influence énorme et naturellement on doit aussi prendre en compte l'industrie des armes qui ont aussi une influence très grande parce que la production des armes soit pour le civil soit pour l'armée les forces armées est très très grande et encore plus grande maintenant avec le plan du président Trump d'investir des milliards de dollars dans la modernisation des armées des États-Unis et naturellement ils ont beaucoup d'influence aussi. De notre côté, on a vu le président qui l'a appelé, il a parlé disant qu'il y avait tant de signes que le tueur de Floride était un déséquilibré mental.
Oui, voilà, ça, justement, voilà, nous, on est en train de parler, et on part du principe que les fusillades sont liées au port d'armes, mais c'est pas une évidence pour tout le monde, hein, et le président, d'ailleurs, comme vous le dites, n'a fait aucune référence aux armes hier dans son discours, et il a parlé des maladies mentales. Vous en dites
c'est
quoi?
Ce que je voulais souligner, qu'il n'y a pas prononcé cette parole, mais pas arme à feu. Il n'a pas parlé de ça. Et c'est vraiment dans cette atmosphère politique où il est dangereux même pour lui de une confrontation avec cette puissante lobby des armes à feu. Et on parle naturellement que c'est le temps maintenant de se libérer de ça, de faire quelque chose, particulièrement en ce qui se réfère aux armes de guerre, parce que presque toutes les tueries dans les écoles ont utilisé un fusil et arc 5, qui est un fusil de guerre, des soldats qui vont faire de la guerre. Et il semble qu'il n'est pas raisonnable de permettre à la population civile de tenir cette arme, parce qu'il n'y a pas besoin de le faire. Il n'est pas pour la chasse, il n'est pas pour le dépôt, il est vraiment pour tuer et tuer beaucoup de gens très, très rapidement, comme on a vu mercredi avec cette tuerie où cet jeune homme a tué 17 élèves et naturellement plusieurs blessés dans 5-6 minutes. Il a été très, très rapide et on questionne pourquoi on ne peut pas prohiber l'achat de ce type d'arme qui n'est pas justifié dans un milieu particulièrement urbain où il y a la police, où il y a des numéros téléphoniques qui fonctionnent et la police peut arriver très vite et ne sert pas que pour une tuerie. Et c'est ça qu'on va discuter maintenant, mais malheureusement, comme il se passe maintes fois...
Mais pour revenir quand même sur les fous et les maladies mentales, si je résume l'argument de ceux qui soutiennent le port d'armes, ils disent en gros, ce ne sont pas les armes qui tuent, ce sont les êtres humains. Et donc, oui. Des fous ou des criminels. Mais ce ne sont pas les armes qui sont à mettre en cause. Vous en dites quoi?
Oui, il y a des incohérences. Par exemple, le président a parlé de la santé mentale de cet jeune homme. Et il dit qu'on doit se concentrer sur ça, sur la santé mentale. Mais, si on peut le dire, dans sa proposition de budget qu'il a envoyé la semaine passée au Congrès, il a demandé, par exemple, l'élimination de milliards de dollars dans les programmes de santé mentale de Medicaid, qui est un programme fédéral de santé qui dessert 70 millions d'Américains. Il a aussi demandé, proposé dans ce budget, 36% de réduction du programme des écoles sûres, comme ça s'appelle, Safer Schools, du ministère de l'Éducation fédérale. 36% de réduction d'un programme qui aujourd'hui, c'est clairement un programme très important. Il a même signé...
Alors, je rappelle que depuis 2018, plus de 1800 personnes sont mortes aux États-Unis dans des violences liées aux armes à feu. Et là, on ne parle pas exclusivement des fusillades de masse, on parle de toutes les violences liées aux armes à feu. Donc il serait difficile quand même d'attribuer tous ces décès aux maladies mentales. Emilio Viano, alors je vais vous donner un de nos commentaires Facebook. En fait, nos Facebookers ont qualifié le tireur tantôt de terroriste. Ils l'ont même comparé à Boko Haram. Et un de nos auditeurs, Mouad Bondou, dit ceci, il a été traité de déséquilibré, n'est-ce pas le moment de reconnaître enfin que l'État islamique, Al-Qaïda, Boko Haram, ACMI et d'autres ne sont composés que de déséquilibrés comme ce jeune homme. Alors qu'en pensez-vous? On a l'impression des fois que si l'assaillant est musulman, c'est un terroriste, s'il est blanc, il est fou. Est-ce qu'on peut parler de double standard d'après vous?
Je crois que oui, naturellement, parce que la définition d'un événement fréquemment reflète notre valeur, notre perception, notre préjugé. C'est-à-dire que quand on pense à un événement comme celle-ci, c'est vrai, l'origine ethnique, la religion, même le nombre de la personne qui le fait joue un rôle très important dans la perception publique. Et vous avez raison que si c'était quelqu'un avec un nombre, c'est-à-dire arabe ou du milieu du Moyen-Orient, par exemple, on penserait immédiatement à un acte terroriste, on chercherait le lien, les contacts qui peut être avec lui pour l'encourager, pour lui donner de l'argent, les armes. C'est vrai qu'il y a une perception différente et qui peut être une conséquence d'un certain préjugé des Américaines dans cet endroit, oui.
Oui, donc j'imagine que c'est justement de ça dont vous parliez un peu plus tôt quand vous faisiez mention des clivages et d'un certain discours politique de nature à diviser la population. Alors on va prendre un autre auditeur et au bout du fil, nous avons Brahima Doumbia. Bonsoir.
Oui, bonsoir à tous. Bonsoir à tous de la VOA.
Alors, votre question, Brahima.
Ma question, c'est de savoir, est-ce que certains États peuvent délibérément ou indépendamment prendre une décision à l'encontre de ces lobbies? Ça veut dire que ces lobbies sont très puissants, c'est-à-dire interdire dans leur État quand même la vente d'armes ou le port d'armes, si mon point de vue, si cela est possible.
Emilio Viano. Emilio Viano? Allô?
Oui, je suis là, oui.
Est-ce que vous avez entendu la question de notre auditeur?
Peut-être, si vous m'aidez un peu.
Oui, alors en fait, il voulait savoir jusqu'à quel point est-ce que les États peuvent légiférer et quelque part s'opposer aux lobbies, aux pressions, jusqu'à quel point un État peut encadrer le port d'armes?
Oui, ils peuvent dans tous les sens. C'est-à-dire, comme je dis, dans un État comme l'Alaska, on peut acheter une arme de feu très, très facilement, même presque sans s'identifier. C'est comme acheter quelque chose qu'on va acheter dans un supermarché. Dans un autre État comme la Californie, c'est très, très difficile. On doit produire beaucoup de documents, d'identification. On vérifie naturellement le passé criminel possible de cette personne. Il y a fréquemment une période d'attente pour obtenir le feu vert, si vous voulez, pour confirmer l'achat. Et même, il y a des règles très étroites sur le port d'armes. Il y a des États où on peut, encore aujourd'hui, comme dans le Texas, aller en public avec des armes à feu. On peut, si on veut, se promener dans une ville avec un fusil, avec un revolver, avec un pistolet. C'est-à-dire qu'il y a des différences énormes qui, comme j'ai déjà dit, reflètent quelquefois la culture même de cette région. Par exemple, dans l'Alaska, que c'est une partie encore assez sauvage, si vous voulez, des États-Unis, il y a encore cette mentalité qu'on est très libre de faire ce qu'on veut. On peut couper un arbre, on peut aller à la pêche sans permis, on peut tuer un animal sauvage. Mais dans la Californie, qui est très urbaine, Los Angeles, San Francisco, etc., il y a des limites très étroites. Il y a vraiment des différences géographiques, de culture, des situations actuelles, mais aussi des valeurs qu'on pense qu'ils sont part de l'identité culturelle de cette région particulière. Et si je dire ça, nous avons maintenant un président qui a été élu par 7 segments de la population. Mm-hmm. C'est-à-dire que, comme on sait, les États bleus, c'est-à-dire démocratiques, sont sur la côte orientale et occidentale des États-Unis, où il y a les villes les plus grandes, de New York à Los Angeles, de San Francisco à Boston, etc. Ceux qui ont élu Trump sont des États qu'on appelle rouges, c'est-à-dire républicains, qui représente le centre du pays, les États plus agricoles, les États où il y a beaucoup encore des forêts, des territoires ouverts, c'est-à-dire un État plus traditionnel, plus conservateur. Mmh. Et il y a cette différence, il y a cette tension entre les États bleus sur les côtes occidentales, orientales et le centre du pays. Et dans ce sens, Trump et les républicains qui ont une élection très importante cette année, tous les députés seront réélus, s'ils sont réélus naturellement, le novembre 2008. Et alors, ils ne veulent pas faire quelque chose qui peut débiliter l'appui qu'ils reçoivent de ces États rouges, de sa base, comme on dit.
Alors, la prolifération d'armes à feu, elle ne s'observe pas qu'aux États-Unis. Il y a d'autres pays où les armes circulent et pourtant, il n'y a pas forcément de fusillades de masse. Et donc, vous étiez très bien en train d'expliquer, il y a peut-être un phénomène comportemental, quelque chose dans la société qui est propre aux États-Unis. Et donc, vous parlez aussi des États du Sud. En visitant la Louisiane, j'ai rencontré des partisans de Donald Trump qui m'expliquaient que la raison pour laquelle il voulait s'armer, c'était pour se protéger du gouvernement. Si le gouvernement venait à vouloir leur prendre leur propriété, est-ce que ça, c'est pas vraiment propre aux Américains?
Oui, c'est une valeur américaine très importante et on doit dire qu'il y a ces aspects positifs. C'est-à-dire que quand on a établi les États-Unis, on l'a fait avec une révolution militaire contre le pouvoir colonial, la Grande-Bretagne, l'Angleterre, et il y avait cette mentalité, il y avait des fermiers, il y avait des gens qui vivaient de la chasse, il y avait d'autres qui cherchaient des minéraux importants comme l'or, l'argent, etc. Et il n'y avait pas beaucoup de gouvernement. Elle voulait vraiment être libre. Nous parlons du 17e siècle, c'est-à-dire quand il y avait encore de gouvernements très autoritaires en Europe, où le roi était roi pour le pouvoir de Dieu, pas pour des élections, il n'y avait pas de démocratie. Alors, les États-Unis ont été un pays naturellement très nouveau dans le sens de donner au peuple le pouvoir, tout le pouvoir. Le gouvernement seulement peut agir parce que le peuple veut qu'il le fasse. Et il y avait cette mentalité de maintenir la liberté individuelle le plus grand possible, parce que aussi il n'y avait pas beaucoup de concurrence, il n'y avait pas vraiment de grandes villes, il y avait un territoire immense, il y avait des richesses naturelles à portée de main assez facilement, et ça a donné l'idée qu'on peut vivre bien sans avoir beaucoup de règles d'intervention gouvernementale. Et c'est ça que Trump a affirmé, comme vous savez, dans ses premiers mois de présidence, en annulant bien de règles, bien de limites.
Alors, Emilio Viano, puisque l'émission se termine, mais quand même, je ne peux pas ne pas aborder cela. Vous avez parlé du contexte, et c'est dans ce contexte-là que le second amendement de la Constitution a été écrit. Et finalement, ces gens, ils disent que c'est leur droit fondamental de porter une arme. Est-ce qu'on peut vraiment changer ça aujourd'hui? Est-ce qu'on peut changer la Constitution?
On peut changer la mentalité, et particulièrement parce que le pays est plus et plus urbaine. Et dans les villes, il y a toute une autre mentalité, parce que l'arme à feu n'est pas quelque chose que vous utilisez pour manger, pour chercher, pour vous défendre des ours ou de quoi que ce soit. Dans la ville, l'arme à feu est pour commettre des crimes. Et alors, et je pense que comme le pays est plus et plus urbain, on aura la possibilité d'un changement, et j'espère, très tôt.
Merci beaucoup Emilio Viano, c'est la fin de cette édition, c'était encore trop court. Donc on avait Sims Loumami à la production, Morgane Guiriec au micro, je vous souhaite une excellente soirée, au revoir.